Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi qui vous emmène chaque semaine à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. La philosophie est-elle une vocation? Comment viennent les idées? Comment se fabrique un concept? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité? Voici aujourd'hui le portrait en acte et par lui-même du philosophe Jacques Rancière. Bonjour Jacques Rancière.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je vous ai présenté comme philosophe, comment vous présentez-vous?
Je ne sais pas, À une époque, j'étais surtout considéré comme philosophe par les historiens, alors que les philosophes me considéraient, eux, comme un historien. Je ne sais pas, parce que j'ai essentiellement toujours travaillé, on peut dire, sur des frontières, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé la carrière philosophique, peut-on dire, par un diplôme d'études supérieures sur le jeune Marx, c'est-à-dire sur l'idée que la philosophie devait se supprimer elle-même. Par conséquent, voilà, je suis entré dans la philosophie un peu par la porte de sortie, et j'ai toujours après vraiment travaillé en quelque sorte sur les limites au fond. Qu'est-ce qui fait que voilà, on peut se percevoir, se penser comme un penseur, comme un philosophe, comme un savant. Quelles sont les conditions qui permettent de tels énoncés, de telles représentations. Donc, on peut éventuellement dire ce que j'ai essayé de faire en exerçant le métier de philosophe, dire si je me pense ou non comme un philosophe, ça n'a jamais été tellement mon problème.
Est-ce que c'est un métier pour vous, philosophe ?
C'est un métier. Professeur de philosophie est un métier, quoi. Ça, c'est clair. Après, non, c'est pas un métier. Enfin, c'est-à-dire que, effectivement, bon, on est universitaire, on est professeur, donc on exerce une discipline. Mais bon, c'est pas, disons, le fait d'exercer une discipline, c'est pas le fait d'avoir un poste de professeur de philosophie qui a été déterminant dans mon orientation. Ça a été d'abord, une certaine fascination pour la philosophie, une fascination un peu ambiguë, comme je vous l'ai dit, puisque finalement la philosophie qui m'a d'abord, disons en quelque sorte, appelé, quoi, était une philosophie qui était censée aller jusqu'au-delà d'elle-même, se supprimer elle-même. Et c'est vrai que bon, j'ai toujours un peu travaillé sur la philosophie hors d'elle-même, bon, tout en faisant des cours, mais effectivement, je dirais que parfois, il y a un rapport entre ce qu'on fait dans une salle de classe et puis ce qu'on, par ailleurs, on essaye de réfléchir. Et puis parfois, il n'y a vraiment aucun rapport. Donc voilà, je veux dire que, en tout cas pour moi, il n'y a pas vraiment d'incarnation globale de la figure du philosophe où une préoccupation, en quelque sorte, se réaliserait dans un métier, se transmettrait sous la forme de l'enseignement. Non, la philosophie, pour moi, a toujours été une sorte un peu de bricolage hétérogène entre des activités différentes, en des lieux différents.
Vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru en 1987, il y a plus de 30 ans maintenant, qui a marqué des générations d'étudiants et de professeurs de philosophie, mais pas seulement, qui s'appelle Le Maître Ignorant, et dans lequel vous racontez l'histoire d'un professeur, Joseph Jacotot, qui fit scandale dans la Hollande et la France des années 1830, en proclamant que les ignorants pouvaient apprendre sans maître pour leur expliquer, et les maîtres pouvaient enseigner ce qu'ils ignoraient eux-mêmes. Cette lecture de l'enseignement, et même peut-être cette pédagogie de l'enseignement a remis en question un état des faits au moment où le livre est paru. Est-ce que ce que vous avez dit à ce moment-là, est-ce que c'est une réflexion générale sur l'enseignement de la philosophie, l'enseignement général, ou est-ce que c'était un texte politique qui, au fond, affirmait l'égalité de l'intelligence chez tous les hommes ?
Oui, le problème, c'est que on a souvent pensé que c'était un livre de pédagogie, quoi, que c'était un livre sur l'enseignement. Et c'est vrai que ce livre est paru dans un contexte où il y avait des grands conflits sur l'enseignement. Bon, il y avait les sociologues d'un côté, les républicains d'un autre, chacun se demandait comment l'enseignement contribuait ou ne contribuait pas, au développement des valeurs démocratiques et ainsi de suite. Or, effectivement, c'était pas mon intérêt. En même temps, disons, j'étais un peu sollicité par ce contexte, quoi. Mais fondamentalement, mon problème était absolument pas un problème de pédagogie. J'ai jamais été vraiment intéressé dans la pédagogie, ce qui est certainement un tort quand on est enseignant, mais qui peut être aussi une vertu, effectivement, quand on occupe cette espèce de position un peu à cheval, justement, entre le dedans et le dehors, quoi. Donc voilà, moi, j'avais rencontré les figures de Jacotot pendant que je travaillais sur l'émancipation ouvrière, pendant que j'écrivais La Nuit des prolétaires, et j'étais pas du tout intéressé par Jacotot comme professeur, mais j'étais intéressé par Jacotot comme justement celui que des prolétaires allaient voir parce que, disons, il disait que les ignorants pouvaient apprendre, quoi. Et aussi, bien sûr, comme celui qui tout d'un coup remettait en question un petit peu, je dirais, toutes les valeurs consensuelles, les valeurs admises, c'est-à-dire que, bon, d'une part, il est admis en général que, bon, un enseignant, c'est quelqu'un qui a reçu un savoir et qui le transmet, c'est dans sa tête, il a la bonne méthode, ça passe dans la tête de l'élève, et puis ça continue. Et puis, en même temps, bien sûr, c'est c'était aussi le moment, les années 1820-1830, où, disons, ce modèle pédagogique traditionnel devient aussi un modèle politique. C'est-à-dire que c'est le moment où on se préoccupe de l'instruction du peuple, avec l'idée qu'il faut instruire le peuple parce qu'il y a un fossé un peu dangereux entre, disons, les élites de la société et puis un peuple complètement alphabète et ignorant, quoi. Donc voilà, c'est le moment où on s'occupe d'instruire le peuple, et d'instruire un petit peu, et puis justement en bon ordre, quoi, parce qu'en même temps, c'est le moment où la grande préoccupation, la grande inquiétude, c'est l'idée de ce qu'on appelle le déclassement, quoi. C'est-à-dire que, voilà, des enfants du peuple qui se mettent à vouloir faire de la philosophie, de la poésie, de la peinture, à entrer dans le monde de l'art, et pourquoi pas de la politique. Voilà, et donc, Jacotot, c'est quelqu'un qui intervient dans ce contexte-là, quoi, dans ce contexte où, à la fois, on dit qu'il faut éduquer le peuple, mais surtout pas trop, et en faisant bien attention, parce que, justement, il faut faire correspondre une acquisition du savoir avec, en même temps, toutes les vertus qui font que ce savoir reste à sa place, quoi. Or, voilà, Jacotot est celui qui vient briser tout ça, qui dit, non, vous n'avez pas besoin d'instruire le peuple, dites-lui simplement qu'il peut apprendre par lui-même, allez simplement dire aux pauvres qu'ils peuvent apprendre par eux-mêmes et sans maître, quoi. Bon, alors, bien sûr, c'est quelque chose qui a des conséquences dans l'acte pédagogique, c'est-à-dire qu'il vous fait comprendre une chose, à savoir qu'on transmet pas son savoir. Bon, on parle devant des gens, et puis après ça, des gens, qui sont en face de vous, ils vont faire quelque chose de ce que vous leur avez dit. Autrement dit que, voilà, il y a...
Mais ça, c'est très très fort d'affirmer que le rôle d'un professeur n'est pas de transmettre son savoir.
Oui, mais je crois que c'est en même temps une évidence, quoi, c'est-à-dire que bon, on dit des choses et éventuellement on les écrit, mais de toute façon, bon, ben voilà, ça reste votre acte à vous, quoi. Après ça, il faut un acte de l'élève, un acte de celui ou celle qui est en face de vous pour en faire quelque chose, quoi. Et ça, bon, c'est quelque chose justement qui est, je pense, est important, mais qui justement ne concerne pas simplement la pratique de l'enseignement, quoi. Ça concerne effectivement l'égalité intellectuelle, et donc effectivement ce qui est fort dans Jacotot, c'est pas qu'il ait fondé une méthode d'enseignement. Il n'a pas fondé une méthode d'enseignement. Il a fondé comme une espèce de, comme de philosophie, mais de philosophie justement qui n'est pas une philosophie de la pédagogie, mais qui est une philosophie de l'égalité. C'est-à-dire que au fond, tout d'un coup, fait cette espèce de révolution incroyable, consistant à dire, vous êtes tous à vouloir absolument aider les gens, plissant dans une situation d'inégalité, pour qu'ils arrivent à un état d'égalité. Mais l'égalité relative, pas trop n'en faut, bien sûr, quoi. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, quoi. Vous n'avez pas à chercher à rendre les gens égaux, vous avez à partir de la présupposition qu'ils le sont, quoi. Qu'ils le sont, ça ne veut pas dire forcément que tout le monde va pouvoir faire la même chose en face de moi maintenant. Qu'ils le font, ça veut dire qu'ils ont tous la même intelligence. Ils ont tous, au fond, les mêmes capacités. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils ont tous appris à parler. Ils ont tous appris à parler leur langue maternelle sans que personne ne leur ait jamais appris.
Et vous avez mis ça en œuvre quand vous avez enseigné la philosophie?
Pas vraiment.
Ah bon?
Non. C'est-à-dire, justement, je ne l'ai pas. Enfin, je l'ai mis. J'essaie de mettre
en œuvre. Vous êtes professeur émérite à Paris 8. Hein,
mais comme philosophie, si vous voulez, de ma pratique. Mais pas, si vous voulez, comme méthode de pratique. Si vous voulez, comme méthode, mais en un sens beaucoup plus large, c'est-à-dire que je l'ai mis en pratique, non pas en inventant des exercices jacotistes, mais plutôt en partant de l'idée que n'importe qui peut comprendre n'importe quoi, si vous voulez. Bon, ce qui veut dire effectivement, par exemple, on avait à Paris 8 beaucoup d'étudiants de première année qui débarquaient de classes techniques, de lycées de banlieue nord, quoi. Alors en principe, si vous avez des gens venant de classes techniques, de lycées de banlieue nord, vous vous dites, oulala, il faut y aller mollo, quoi. La philosophie, c'est un truc compliqué. Il faut utiliser les médiations, quoi. Et bon, moi, bien sûr, j'avais choisi le principe inverse. C'est-à-dire que je commençais par le faire travailler. Non pas leur faire un cours, mais le faire travailler sur le sophiste de Platon, quoi. Bon, effectivement, l'être, qu'est-ce que c'est? Bon, qu'est-ce que c'est que l'être? Voilà. Parce que je pense que oui, d'une certaine façon, où on part du principe de l'égalité, et ça a un sens ce qu'on fait, où on part du principe de l'inégalité, et bon, ça n'a pas de sens, parce que les gens ne vont jamais vous rattraper, quoi. Il n'y a rien à faire. Si vous commencez par dire, oh, je vais commencer par des trucs un peu faciles, et puis petit à petit, ça va monter, bon, je dirais que vous reproduisez indéfiniment un système. Donc voilà, si j'ai appliqué pédagogiquement Jacotot, encore une fois, c'est pas au sens du tout d'une méthode d'enseignement, mais plutôt d'un mode de rapport avec ceux qui sont et celles qui sont en face de moi, quoi. Et au fond, c'est justement pour ça que je dis que c'est pas une question de pédagogie, c'est une question, pourrait-on dire, de politique et d'éthique en général.
Dont on va tirer les conclusions à la fin de cette émission, Jacques Rancière. On a 50 minutes pour faire votre portrait philosophique et la connaissance de vos propres influences et composantes intellectuelles. J'ai présenté votre livre Le Maître Ignorant parce qu'il était un ouvrage clé dans votre carrière. Le second, rapidement, avant qu'on en arrive aux origines même de votre rencontre avec la philosophie, qui a beaucoup marqué aussi les lecteurs, c'est La haine de la démocratie. C'est un livre qui paraît en 2005. dans lequel vous vous rappelez que finalement toute forme de régime politique est en partie une oligarchie dans la mesure où c'est une minorité qui gouverne une majorité. Vous écrivez ce texte quelques mois après le référendum français sur le traité établissant une constitution pour l'Europe en 2005. Et la haine de la démocratie, le titre est très fort, vous êtes devenu à ce moment-là, et j'imagine qu'on vous fait encore jouer ce rôle-là, le porte-parole des critiques de la démocratie, alors que dans le livre, vous essayez de comprendre comment ces critiques-là peuvent émaner du peuple qui lui-même est constitutif de la démocratie.
Oui, bon, ce que j'ai essayé de traiter d'abord au départ de ce livre, quoi, c'était ce phénomène étrange, quoi, que voilà, on était en principe depuis 1989 dans un monde où la démocratie avait triomphé, voilà, c'était fini le totalitarisme, voilà, donc il restait plus la démocratie, était toute seule, quoi, donc voilà, il y a eu cette époque de grand enthousiasme, enfin très court, hein, pour la démocratie avec l'idée, voilà, la démocratie c'est vraiment un régime de vie, on est là dedans, c'est à la fois une forme sociale. Un régime, bon, et c'est le grand bonheur, quoi. Et puis, petit à petit, bon, on a vu les gens déchanter et on a vu un tas de gens qui, en principe, disons, étaient les mêmes qui, d'une certaine façon, à une époque, auraient opposé démocratie et totalitarisme, se mettre à dire « Oh, mais la démocratie, c'est pas bien, attention, la démocratie, c'est le règne des masses, le règne des masses, c'est le règne de l'individualisme de masse, c'est le règne du consommateur, c'est le règne de la marchandise, c'est le règne du spectacle. » Et toutes ces choses-là, bien sûr, sont très, très mauvaises pour l'art de gouverner, quoi. Donc voilà, je me suis placé dans cette situation où on était, voilà, dans ce paradoxe, les gens qui disent « On est en démocratie, dans des démocratie, mais la démocratie, je peux vous dire, c'est quand même un truc qui est sordide, qui est pas du tout, disons, ragoûtant, quoi. Et voilà, j'ai essayé de comprendre un petit peu ce paradoxe, parce qu'au fond, ce que j'ai toujours essayé de comprendre, ce sont des paradoxes, quoi. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'il faut en comprendre par démocratie? Donc, j'ai essayé de dire à ce moment-là, bon, la démocratie, c'est pas simplement un régime politique, la démocratie, c'est pas une espèce d'état de la société au sens de Tocqueville, l'égalité des conditions, enfin, l'égalité des conditions, on voit bien aujourd'hui ce que ça veut dire. Enfin, bon, on en est par rapport à ça, hein, en passage. Mais voilà, j'essaie de dire non, la démocratie, c'est ce principe incroyable, invraisemblable, à savoir que ceux qui gouvernent sont ceux qui n'ont pas la compétence pour gouverner. C'est-à-dire que finalement, c'est pas les gens qui sont nés pour gouverner, pas les gens qui ont les qualités pour gouverner, pas les gens qui ont fait des écoles pour gouverner. Non, c'est pas ceux-là qui doivent gouverner. Mais c'est ceux qui n'ont aucune caractéristiques ou rien qui les destine à gouverner, quoi.
Mais on voilà. En revient au maître ignorant, c'est la même thèse au fond, qu'il y a une égalité d'intelligence chez le maître et chez l'élève et chez le gouvernant et le gouverné.
Oui, enfin, je n'ai pas pensé comme une application du maître ignorant, mais bien sûr, ça renvoie à la même chose. C'est-à-dire que l'idée démocratique au sens fort, c'est pas l'idée que, voilà, tous les cinq ans, on va voter, on va choisir pour savoir quel est le meilleur, bon, entre des candidats qui pratiquement proposent tous la même chose. Voilà, la démocratie, c'est une espèce de renversement incroyable, finalement, de l'ordre du monde, si on le prend au sérieux, quoi. Et donc, ce renversement de l'ordre du monde, c'est ça qui fait peur, quoi. C'est ça qui fait peur. C'est-à-dire, parce que le moment où les gens qui n'ont pas de qualité pour gouverner, qui n'ont pas de qualité pour dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent, se mettent à le dire et inventent des formes pour le dire. Donc voilà, j'ai essayé un petit peu de penser à ce moment-là l'écart entre la démocratie comme forme d'action et puis, disons, la démocratie pensée soit comme régime, forme de gouvernement ou encore comme état de société, quoi.
Alors on va essayer de comprendre la cohérence, parce qu'il y en a une quand même, hein, entre les deux ouvrages dont nous venons de parler, même s'il y en a beaucoup d'autres, dans La nuit des prolétaires notamment, ou bien Le destin des images, que vous avez également travaillé sur le cinéma. Vous faites partie de ces philosophes qui travaillent sur le cinéma sans revendiquer une philosophie du cinéma. Racontez-nous, alors d'abord, quelle est votre première rencontre avec la philosophie? Vous en souvenez?
Oh, je pense que ma toute première rencontre, ça doit être en classe de seconde, où quelqu'un m'a prêté, vous savez, la petite brochure de Sartre, « L'existentialisme est un humanisme ». Voilà, je crois que c'était mon premier rapport avec la philosophie, quoi. Donc je pense que mon premier rapport, ça devait être quelque chose comme les pièces de Sartre, si vous voulez, les romans de Sartre. Voilà, c'était ça un petit peu.
Sartre, donc.
Je pense que oui, enfin, c'est le philosophe que j'ai d'abord connu, que j'ai d'abord lu, quand j'étais donc lycéen, c'était Sartre, quoi. Bon, après quoi, bien sûr, il y a toutes sortes de choses qui se sont superposées par-dessus. Quand j'étais en Hippocane, je me suis passionné pour Descartes. Enfin bon, j'ai travaillé les objections, les réponses aux objections. Enfin, vraiment, fait un travail énorme pour un exposé qui devait durer 3 minutes ou 5 minutes, quoi. Mais bon, là, tout d'un coup, je m'étais pris de passion pour un certain type d'exigence conceptuelle. Bon, après quoi, comme je l'ai dit, bon, il y a eu un peu la rencontre avec Marx, donc l'idée que la philosophie était destinée à se supprimer elle-même. Bon, la rencontre avec Althusser qui disait que non, pas du tout, la philosophie, on en avait besoin. Et qu'il y avait
dont vous avez été l'élève.
Dont j'ai été l'élève, bien sûr.
Et, avant mai 68.
Donc voilà, qui disait que non, pas du tout. Oui, j'étais allé le voir en disant, je suis étudiant en philosophie, mais enfin bon, est-ce que ça a beaucoup de sens, etc. Parce que bon, ben la philosophie doit se supprimer. Il m'a dit non, pas du tout.
La philosophie... Oui, parce que Marx pose que la philosophie doit se
dans les textes de jeunesse. Oui. Dans les textes de jeunesse, mais c'était bien sûr le moment où Althusser partait en guerre contre les textes de jeunesse. Et par conséquent, on disait que la vraie philosophie, celle qui n'était pas à supprimer, elle était dans le Capital. Sauf qu'elle était dans le Capital, mais en même temps, elle n'était pas formulée. Il fallait la trouver.
Donc vous hésitiez entre Marx d'un côté. Elle tu sers de l'autre.
J'hésitais entre deux Marx.
Quoi. Oui, c'est ça.
Et effectivement, bon, je pense qu'on passe sa vie, enfin, du moins quand on est né dans un certain, enfin pas né, mais du moins quand on s'est installé dans un certain univers de pensée, toujours à passer d'un Marx à un autre. Et Dieu sait qu'il y en a une multitude, quoi. Donc j'étais au départ entre ce Marx qui disait que la philosophie était destinée à se supprimer elle-même, et puis cet autre Marx qui disait pas du tout qu'il fallait de la philosophie, mais dont Althusser nous disait que oui, il y avait cette philosophie qui était essentielle, elle était là, à l'œuvre, elle était en pratique dans le Capital, il fallait l'extraire. Quoi. Donc effectivement, je me suis mis au travail d'extraire cette philosophie. Bon, je ne pense pas l'avoir vraiment extraite, mais enfin ça c'est une autre question.
Et après mai 68, vous prenez vos distances, notamment avec Althusser, et est-ce que vous rencontrez quelqu'un qui vous donne envie de continuer d'être... Alors vous continuez à faire des études de philosophie, vous intégrez l'École normale supérieure, c'est donc il y a bien quelque chose qui vous donne envie de faire de la philosophie votre métier. Quelque chose ou quelqu'un.
C'est pas si simple que ça. Vous savez que quand on était étudiant, on a fait une hypocagne, une cagne. Bon, la philosophie, c'est d'une part une discipline. Bon, c'est d'autre part éventuellement des personnes qui incarnent cette discipline. Mais c'est pas, disons, la vocation conduisant à un métier. Donc, je dirais que pendant les 5 années que j'ai passé à l'École normale supérieure, je n'ai vraiment jamais pensé à, disons, ce que je ferais le jour où je serais professeur de philosophie, quoi. Donc, j'ai vécu cette espèce de contradiction, de tension. Finalement, quand je suis sorti de l'École normale, j'étais convaincu par Althusser que la philosophie était une chose sérieuse et qu'il fallait effectivement développer une philosophie marxiste. Disons 3 ans après, il y a eu 68. Tout d'un coup, cette philosophie marxiste s'est trouvée complètement en décalage avec ce qu'elle était censée un peu exprimer, à savoir malgré tout le mouvement de masse cherchant, disons, une action révolutionnaire. Je me suis dit que là, il y avait un problème. Il y avait un problème, et ce problème, au fond, m'a mis un peu en dehors de la philosophie. C'est-à-dire que bon, après 68, je lisais plus du tout de livres de philosophie. Mais en revanche, effectivement, à ce moment-là, j'ai fait la rencontre de Foucault, c'est-à-dire Foucault qui justement donnait l'image d'un certain type de philosophie, à savoir une philosophie qui justement ne se perdait pas dans la question de la pensée pure, la question du concept, mais une philosophie qui essayait vraiment d'étudier les systèmes de rationalité, les formes de parole, les formes discursives à l'œuvre dans la société, quoi.
Et c'est exactement ainsi qu'il en parle en 1968, précisément, voici Foucault qui définit la philosophie comme ayant perdu sa spécificité.
La philosophie, c'est une activité qui est diverse, qui est polymorphe, c'est une activité qui, à un moment donné, avait son style très particulier, avait ses objets très particuliers. Je crois maintenant que le discours philosophique a perdu ce style, qu'il a perdu ce domaine particulier, le monde d'objets qui lui était familier, qui était les siens, et que maintenant, si vous voulez, la philosophie se perd dans sa spécificité et elle réapparaîtra un jour. Elle est peut-être en train de réapparaître dans un langage que nous ne soupçonnons pas encore. On a l'impression que nous sommes actuellement dans la non-philosophie, dans la nuit de la philosophie, dans cet intermédiaire entre deux crépuscules, celui du soir et celui du matin. Nous sommes en philosophie dans cette nuit où tous les chats sont gris. Au fond, le propre de la philosophie, c'est qu'elle ne sait jamais au juste ce qui est le jour et ce qui est la nuit.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, profession philosophe aujourd'hui en compagnie du philosophe Jacques Rancière. Nous venons d'entendre la voix de Michel Foucault qui décrit la philosophie comme étant entrée dans sa phase nocturne. C'était en 1968, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui Jacques Rancière, mais est-ce que vous partagez ce constat qui finalement qui a double tranchant, parce qu'on pourrait très bien voir ça comme une bonne chose, le fait que la philosophie ait perdu sa spécificité et qu'elle ait gagné en transversalité?
Bon, je pense que bien sûr il y a toujours des allées et des retours, mais fondamentalement, je dirais que je reste convaincu, pour moi en tout cas, que si la pratique philosophique est intéressante ou s'il y a une activité intéressante qu'on peut appeler philosophie, c'est quand même ça, c'est-à-dire c'est quand même une activité qui sort de son objet propre et une activité qui justement, ça ne contente pas simplement de son objet propre, mais qui s'interroge plus globalement sur ce que c'est qu'un objet propre. Car au fond, ce qui m'a intéressé, effectivement, c'est pas les objets propres de la philosophie, mais c'est pas non plus de dire bon, la philosophie c'est nul, bon, il faut rentrer dans la réalité sociale, politique ou que sais-je. Non, ce qui m'a intéressé, c'est justement de, non pas seulement d'aller dehors, mais de m'interroger sur toutes les frontières qui fixent un dedans et un dehors. Et au fond, ce que Foucault dit, oh ben, finalement, on ne sait plus très bien ce qui est le jour et ce qui est la nuit, quoi. Et bon, moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire de me tenir sur des frontières. Bon, la frontière entre ce qui est la pensée et ce qui est censé être l'objet de la pensée. Bon, j'ai donc travaillé pendant plusieurs années sur ces textes, sur ces écrits ouvriers. Et ces écrits ouvriers qui, justement, normalement, étaient classés du côté des objets. Et même pas ceux de la philosophie, des objets de l'histoire, quoi. Mmh. C'est-à-dire, c'est des espèces de borborygmes. Et puis, l'histoire. L'historien explique pourquoi c'est des gens un peu pas très cultivés, à une époque donnée, font ces borborygmes là, quoi. Voilà, moi j'ai essayé de pratiquer autre chose, c'est-à-dire de dire, voilà des gens qui pensent et qui écrivent, quoi. Et voilà.
C'est ce qu'a fait Foucault aussi, à sa manière.
Oui,
d'ailleurs,
oui.
Lui-même se trouvait inclassable entre historien, philosophe.
Oui, absolument, absolument. Donc, voilà, j'ai essayé de faire comme une espèce de grand écart, mais pas seulement le grand écart qui dit, on va quitter l'université pour aller aux portes des usines, mais le grand écart qui consiste à dire entre ce qui se dit dans les textes philosophiques et puis ce qui se dit dans ces textes ouvriers autodidactes du 19e siècle. Il y a quelque chose de commun, il y a une question commune, et bon, finalement, peut-être la philosophie essayait de penser quelle est cette question commune et en même temps quelles sont les frontières qui empêchent en quelque sorte de poser cette question commune. C'est comme ça que, voilà, travaillant sur les écrits du menuisier Goni, sur son rapport au temps, sur la journée de travail, sur ce qui se passe finalement dans les heures du travail, bon, j'ai établi tout d'un coup un rapport qui est un rapport interdit, impossible, avec ce que Platon dit au troisième livre de la République, à savoir que les ouvriers n'ont pas le temps de faire autre chose que leur travail, parce que le travail n'attend pas, quoi. Et voilà, donc, normalement, bon, il y a une frontière absolue, quoi. Il y a ceux qui pensent, il y a ceux qui pensent pas. Il y a ceux qui sont tout au plus l'objet de la pensée, et plutôt l'objet d'une connaissance empirique que l'objet de la pensée même. Et voilà, et puis j'ai eu l'idée qu'on pouvait se tenir sur cette frontière, interroger ce qui se passait d'un côté et de l'autre, et créer en quelque sorte l'espace commun où ces choses sans communication se mettent à communiquer, et du même coup pose la question effectivement de la manière dont notre monde est structuré, dont la pensée en quelque sorte y est localisée.
Cette dimension transversale de la philosophie qui n'a pas d'objet propre, mais dont le propre serait peut-être de considérer chaque objet devant elle comme digne de réflexion, vous le dites que c'est ce que vous mettez en œuvre quand vous allez regarder du côté des archives, et non pas simplement des textes qui sont déjà existants. C'est aussi ce qui se passe lorsque vous rencontrez, alors non pas quelqu'un, mais peut-être quelque chose, un objet d'art, disons, hein, vous dites, vous aviez le choix entre réviser le sujet d'histoire pour les examens de Normale Sup ou d'aller voir un film au cinéma. Il s'agit de Sourire d'une nudité de Bergman. Vous allez voir le film. Bah, on va écouter un extrait du film. Vous allez me dire ce qui se passe le jour où vous décidez d'aller voir ce film.
Bort med sorg och bitterhet, oro och bekymmer. Denna plats blott lustbarhet, lek och kärlek rymmer. Låt oss endast glädjas här, nöjet blott är vår affär. Älska av förnuftet, här är det föreskrivet. Om man ej vore kär, ah. Vad vore livet?
Akta den här, Fredrik, det är en stor vattenpuss.
Et alors là, entre le personnage qui tombe dans la flaque d'eau, vous n'êtes pas tombé Jacques Rancière, mais vous avez raté le concours d'entrée à l'École normale supérieure lorsque vous avez choisi d'aller voir ce film, un film qui vous aura marqué à vie quand même.
Oui, il m'a marqué à vie, effectivement, puisque ce soir-là, j'aurais dû réviser les États-Unis. Et puis, les États-Unis, évidemment, sont tombés au concours. Et effectivement, ça.
Bon, vous l'avez eu l'année d'après. C'était qu'une année.
D'après, bon, je dirais que. J'en ai pas voulu à Bergman, j'en ai pas pour autant, parce que d'une certaine façon, bon, une année de plus, c'est aussi éventuellement une année de réflexion, une année de mûrissement, et que précisément peut-être cette année-là, l'année suivante, d'ailleurs justement, je crois que j'ai beaucoup été au cinéma, et peut-être ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est construit aussi, qui m'a peut-être aussi aidé plus tard dans ma carrière philosophique. Donc voilà, il n'y a pas simplement les polycopiers qui vous aident aident dans la vie. Il y a aussi des films qu'on va voir et qui éventuellement vous créent quelques problèmes par rapport aux exercices universitaires que vous avez à subir.
Alors pourquoi Sourire d'une nuit d'été? Là on a entendu Désiré qui chantait, Egerman qui marche dans la nuit, regarde leur reflet dans une flaque, et puis Egerman tombe dans la flaque et Désiré éclate de rire. Pourquoi cette scène en particulier?
Bon, je peux pas dire que je suis allé voir le film à cause de cette scène, quoi. Mais bien sûr, bon, il y a quelque chose, je crois, qui est pour moi important, qui est justement comme une espèce de aussi de frontière un petit peu indécise entre ce qui est comique et ce qui est dramatique, en ce qui est purement finalement un jeu d'apparence et ce qui est sérieux. Bon, dans cette scène aussi, tant que je m'en souvienne, justement, on voit un petit peu les reflets des personnages comme ça dans l'eau. Il y a quelque chose en quelque sorte qui m'a toujours intéressé, justement, qui était de travailler un petit peu sur les apparences. Ouais. Et bien sûr, d'une certaine façon, à la fois Bergman, c'est l'homme qui prend à bras le corps, on peut dire, les problèmes psychologiques des gens. Ça m'intéresse pas tellement, quoi. Mais en même temps, c'est un fabricant extraordinaire d'apparences, quoi. Et voilà, je pense que ce qui m'a intéressé ce jour-là, ce qui m'attirait, c'était effectivement ces apparences-là.
Et c'est ce qui vous a donné envie de continuer à aller au cinéma et de travailler aussi sur le cinéma? C'est la question de l'apparence? Vous avez travaillé sur l'image aussi.
Pas vraiment.
Le cinéma n'est pas qu'à faire d'apparence.
Non, simplement, je commande cette séquence particulière, bien sûr, qui est un jeu. Il n'y a pas que le jeu qui m'intéresse au cinéma. Bon, j'ai écrit sur Pedro Costa, sur Bellatar. C'est pas proprement, disons, un petit peu des esthètes de l'apparence pure, quoi. Il se trouve que j'ai été amené parce que j'avais un voisin qui était vraiment un cinéphile à côté de moi, justement dans cette seconde canne que j'ai faite à cause de Bergman. Voilà, j'ai rencontré un autre étudiant qui lui était un fanatique de cinéma, mais pas du tout de Bergman. C'était l'époque du Mac Mahon, quoi. Donc voilà, c'est à dire que je me suis trouvé embarqué dans une espèce de trajectoire en quelque sorte. Tout d'un coup, le cinéma se mettait à compter, à avoir un sens, pas au sens où le cinéma donnait des leçons de vie, où le cinéma transmettait des messages, non, mais tout d'un coup, précisément, quelque chose se passait sur cette surface de l'écran qui avait de l'importance pour la pensée aussi, quoi.
Mais alors comment en parler? Vous avez écrit un livre qui s'appelle Le Destin des images, qu'on trouve aux éditions La Fabrique. Et je l'ai dit en début d'émission, vous ne parlez pas de philosophie du cinéma. Donc est-ce que c'est une manière de prouver cette transversalité de la philosophie que de dire au fond, un film, comme n'importe quel objet, n'importe quelle chose existante, soulève un problème que nous avons à formuler et on peut essayer d'y répondre?
Non, je veux dire que moi, je m'intéresse pas, si vous voulez, effectivement, à la philosophie du cinéma. Bon, il y a des gens qui ont fait, on peut dire, de la philosophie du cinéma. On peut penser, bien sûr, à Stanley Cavell. Stanley Cavell, précisément, est un philosophe qui va vous dire, tel film va vous aider à poser tel problème philosophique, quoi. Ça n'a vraiment jamais été mon souci, quoi. Ce qui m'a été plutôt mon souci, c'est, comment tel film, on peut dire, construit, en quelque sorte, sur une surface, quelque chose comme un monde commun, un monde où des paroles, des images, des mouvements, des significations se mettent ensemble. Donc c'est ce qui m'a quand même intéressé, c'est cette question de comment se construit un monde commun.
La question du monde, en tout cas, c'est précisément ce qui préoccupe Stanley Cavell dans ses écrits sur le cinéma. Justement, c'est partie de ces philosophes qui mettent en scène, qui montrent que le film est une manière de soulever les questions que nous nous posons et surtout celles de l'existence du monde. Alors qu'il y a beaucoup d'autres philosophes, en effet. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup des philosophes qui se sont intéressés au cinéma jusqu'à une période très récente. L'autre en France était Deleuze, avec l'image-temps et l'image-mouvement, qui forgeait des concepts pour essayer de penser le cinéma. Et ça, vous dites, finalement, c'est une manière de dissocier d'un côté la philosophie, de l'autre le cinéma, de manière artificielle?
Bah, surtout la question est toujours la même, c'est-à-dire à savoir qu'est-ce qu'on va appeler le cinéma, quoi. Parce que quand on dit théorie du cinéma, voilà, on suppose qu'il y a une espèce de réalité comme ça, bon, un art en quelque sorte qui aurait ses principes, dont on pourrait déduire les formes des principes. Or, non, pas du tout, quoi. Le cinéma, c'est pas ça. Le cinéma, c'est une espèce de divertissement populaire qui est devenu à la fois un art, une industrie qui a connu des formes extrêmement diverses, quoi. Ce qui fait que, bon, effectivement, comme on l'a fait à une époque, une philosophie du cinéma, une théorie du cinéma, comme si le cinéma qui a une réalité substantielle, pour moi, ça n'a pas de sens.
Il n'y a pas de différence, en fait, entre le film et notre monde. C'est ça que vous dites, le monde commun, c'est ça, c'est que le
c'est
cinéma...
Pas ça, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis simplement, c'est que moi, ce qui m'a intéressé, c'est des films, quoi, si vous voulez. C'est des films, et c'est pas le cinéma, parce que faire une théorie du cinéma, ça veut dire arriver à un niveau de généralité tel que finalement, on va rien dire, quoi. Donc, ce qui m'intéresse toujours dans un texte, que ce soit un texte de littéraire ou un texte dit social, que m'intéresse dans des images, sur un tableau, sur un plan de cinéma, sur une séquence de cinéma, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce que ce qui se passe là peut dire sur notre expérience du monde.
Par exemple, un film de Rossellini, Europe 51, on va en entendre un extrait. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots avant qu'on entende l'extrait? Pourquoi ce film?
Non, je crois qu'on peut entendre l'extrait d'abord.
Allons-y.
Buongiorno.
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 Buongiorno. Come sta?
Bene, grazie.
Bruno, vieni qua. Guardi, guardi, si è un po' rimesso.
Sì.
Sta meglio. Ringrazia la signora.
Grazie.
Si accomodi, signora, si accomodi.
Si accomodi, signora.
Beh, fate silenzio adesso che Gigetto canta.
E gira e fai la roba.
Visto che con sti canti e con sti suoni non se può dormire, mi sono venuta a divertir pure io.
E s'accomodi.
Lascia che i miei amici ascoltano la
mia voce. Di giro, abita qui vicino a noi. È una preoccupazione per chi c'ha i ragazzi grandi,
e
signora mia.
E ne puoi andare là, lasciaci in pace.
Ho capito, me ne vado.
Ecco.
S'accomodi, s'accomodi, arrivederla, signorina.
Attacca, male. Che male che ce ne
che gira e fai la rota.
Che voce, eh? Hai sentito? È bravo.
La
eh?
Gioia di cantare è naturale. Noi festeggiamo che Brunetto è uscito dall'ospedale.
Ça vous fait sourire cette scène, Jacques Rancière?
Oui, c'est pour ceux qui sont pas vraiment au fait de ce qui se passe, Ingrid Bergman joue donc la femme du monde qui a perdu son fils, qui est dans le désarroi et qui essaye de s'en sortir et là il se trouve qu'elle a un cousin qui est un peu la brebis de la famille parce que c'est un journaliste communiste quoi. Bah, et qui lui explique que bon il y a des malheurs autres que le sien et peut-être il faut qu'elle aille voir ces malheurs donc elle va s'occuper de ce petit fils d'ouvrier qui est malade, qu'elle paye pour qu'il soit soigné, l'enfant revient plutôt, et donc elle est accueillie dans la maison au moment où l'enfant vient de revenir, et bien sûr on la remercie et on chante. Voilà, il y a cette espèce en quelque sorte justement peut dire vraiment de prototype de la visite au peuple. Bien sûr, ça m'intéressait aussi à l'époque parce que ce qui m'avait quand même intéressé dans l'expérience gauchiste, c'est il y a ce qui relève des théories de la révolution, Marx, Lénine, Mao, tout ce qu'on veut quoi. Et puis il y a aussi ce fait qu'à un moment donné, des gens ont envie d'aller voir ailleurs, quoi, aller voir ce qui se passe justement dans cette espèce d'autre monde qui s'appelle la classe ouvrière, qui s'appelle le peuple, qui s'appelle l'usine. Voilà. Alors bien sûr, j'ai essayé un petit peu de réfléchir justement sur des exemples divers finalement, qui sont un petit peu comme des espèces de modèle fond de cette visite au peuple. Alors bien sûr, là, c'est une espèce de modèle absolu, peut-on dire, puisque donc ici, donc Ingrid Bergman, elle est accueillie dans le peuple. Alors voilà, c'est un tout petit espace. Ils sont très serrés, ils sont contents, ils sont joyeux. À part le fait qu'il y a évidemment la prostituée qui se plaint parce qu'on l'empêche de dormir. Évidemment, le jour, elle aimerait bien pouvoir dormir, quoi. Et puis c'est ça qui est intéressant. On peut dire voilà, elle rencontre un certain peuple, quoi. Et puis elle va sortir, et puis sortant tout d'un coup, elle va voir quelque chose de bizarre. Il y a quelqu'un qui vient de se noyer dans le fleuve. Et puis elle voit des enfants qui jouent dans c'est dangereux. Elle va s'occuper de ses enfants. Elle va rencontrer la mère de ses enfants qui est Giulietta Massina. Alors qui elle, vraiment les disciplines de l'usine, etc. Le chez soi ouvrier. Non, c'est tout à fait autre chose. C'est un peu le bordel et c'est un peu disons la fantaisie. Et voilà. Et donc, elle trouve un job à Giulietta Massina, mais malheureusement, elle doit rencontrer un homme qui est peut-être l'homme de sa vie, donc elle dit, ah, vraiment, c'est dommage, je peux pas y aller, donc c'est Ingrid Bergman qui va à sa place. Et donc, il y a bien cette scène que Deleuze a commentée, où elle rencontre, disons, la réalité de l'usine, quoi. Alors voilà, moi, ce qui m'a intéressé, c'est la manière dont, on peut dire, le cinéma véritablement construit, en quelque sorte, le peuple. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs peuples, comme ça, qui vont se succéder. Il y a le peuple, on peut dire, du journaliste communiste. Bon, ça va, c'est un peu dire ça, c'est rassurant d'une certaine façon, ça change, mais c'est quand même rassurant, quoi. On s'y retrouve, même si on est loin de chez soi, on s'y retrouve, quoi. Et puis tout d'un coup, il y a cette espèce d'autre peuple, disons, auquel Giulietta Massina l'introduit. Bon, qui est un peuple justement erratique, et tout d'un coup, elle sort en quelque sorte de ses rails, et c'est comme ça qu'elle va devenir comme une espèce de sainte irrécupérable pour la société. Donc voilà, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est justement le fait que. Il y a quelque chose de fort qui se dit à travers des images, des mots, cette espèce de chanson, même cette espèce de rythme, si vous voulez, un peu de chanson populaire. Voilà, on a un peu l'impression que c'est le peuple, c'est ce peuple-là qui est en train de chanter. Ça, c'est exactement comme on rate ses émotions, ses sensations. Enfin, vous savez, dans les années 1830, donc j'avais étudié cette espèce de d'affaire des poètes ouvriers, quoi. Les ouvriers se mettaient à faire des poèmes, mais des poèmes trop sophistiqués, trop compliqués. Et les grands poètes leur disaient, mais non, c'est trop compliqué. Qui a fait des chansons populaires, voilà. Et d'une certaine façon, c'est ça qui fait, donc, évidemment, le membre de la famille qui est musicien. C'est ça que. Et évidemment, Ingrid Bergman, elle est ravie. Puis elle sait pas que bientôt, tout d'un coup, elle va rencontrer quelque chose qu'elle pourra plus maîtriser, où le peuple sera plus un chez-soi, quoi.
Mais c'est la musique qui vous touche aussi dans le cinéma, non?
Oui, enfin, en ce lieu-là, bien sûr, c'est la musique, quoi. En plus, bon, effectivement, il faut bien penser que on a entendu l'italien, mais en fait, tout ça est doublé, quoi. Et d'une certaine façon, la musique, on peut dire, comme l'élément d'authenticité, en quelque sorte.
Je vous pose la question parce que dans votre cœur, aux côtés de Marx, Rossellini et Bergman, on trouve aussi celui-là. Que sommes-nous en train d'écouter, Jacques Rancière ?
Alors bon, on écoute donc le début de la romance du 20e concerto de Mozart.
Et pourquoi cette chanson-là, cette musique-là en particulier, vous touche-t-elle ?
On m'a demandé une musique, si vous voulez. Bon, pourquoi je l'ai choisie ? Pour deux raisons. La première raison, je pense que c'est que le jour où j'ai entendu ces premières notes, si vous voulez, de la romance jouée par Clara Askill, enfin sur un disque, c'était pas en concert. C'est le jour où je me suis dit que j'aimais la musique, quoi. Jusque-là, je disais que la musique classique, bon, ça m'intéressait pas, j'aimais pas. Puis tout d'un coup, j'ai eu ce choc, c'est-à-dire tout d'un coup, t'as l'idée que quelque quelque chose sortait du silence qui était exactement ce qui devait sortir du silence et ce qui, en quelque sorte, peut dire, contenait comme la puissance du silence. Bon, bien sûr, pour l'entendre, il faudrait se souvenir de cette fin du premier mouvement. La fin du premier mouvement commençait très, très fiévreuse, comme ça, très, très agitée, elle aussi très virtuose, parce que, en général, on joue les cadences de Beethoven. Donc, voilà. Et puis, donc, il y a cette fin très fiévreuse. Et puis, tu y as comme ça, cette espèce, tout d'un coup, de cantilène qui arrive. Alors, justement, bon, pourquoi je l'ai aimé, sans doute, peut-être parce que tout d'un coup, j'avais l'impression, effectivement, que c'est ça qui devait sortir du silence. Peut-être aussi, bien sûr, parce que c'est un type de musique qui, finalement, brouille complètement la distinction entre ce qu'on appelle musique savante et musique populaire. Bon, il y a effectivement cet air comme ça qui arrive et qu'on entend maintenant, comme ça, qui est une espèce de thème de chanson populaire qui arrive au cœur de cette romance. Oui, pour moi, si vous voulez, c'est devenu quelque chose comme une espèce de symbole de ce que c'est que toucher juste. Quoi. Tout d'un coup, il y a, après la fin bruyante, on peut dire, du premier mouvement, après le silence, cette note, on peut dire que c'est celle-là qu'il fallait et pas une autre, quoi. Et que c'est celle-là que contenait le silence. Et voilà, j'ai un peu toujours essayé de faire ça, de se dire, au fond, pour moi, le problème, c'est comment commencer, quoi. Comment sortir du silence, comment mettre le premier mot, quoi. J'ai toujours l'idée que lorsqu'on a le premier mot d'un livre, ça va, la suite va aller, quoi.
Et comment parvenez-vous à trouver ce mot juste, Jacques Rancière, quand vous vous mettez au travail? Comment vous vient-il? Est-ce que vous inspirez justement en écoutant de la musique, en allant au cinéma, en regardant devant vous, en vous isolant et en vous attachant à votre chaise pour travailler?
Bon, en général, le mot juste, bon, trouver le mot juste d'où le reste va découler. Bon, ça veut dire d'abord un travail, immense, d'accumulation, parce que bon, effectivement, moi, je suis pas quelqu'un qui travaille sur les concepts purs, donc bon, j'ai travaillé sur des masses de documents, bon, archives ouvrières, mais aussi bon, documents concernant bon, l'histoire des arts, documents, disons, littéraires, textes littéraires, films, et ainsi de suite. Donc, je veux dire que je travaille toujours sur une espèce de masse, quoi, avec, disons, l'idée qu'effectivement, cette masse de documents, c'est pas comme souvent les gens pensent, à savoir, il y a la documentation, et puis on construit le plan, et puis voilà. Non, pour moi, ça veut rien dire, quoi.
Tout se fait en même temps?
C'est-à-dire qu'il faut arriver à un moment donné à une espèce de condensation exemplaire. C'est-à-dire que il faut qu'à un moment, pour moi, disons, ce qui vous fait écrire, c'est vraiment l'énergie qui se tire, on peut dire, du matériau lui-même. C'est-à-dire, c'est l'énergie, bon, soit des manuscrits ouvriers, soit de ce qui est, disons, dans une séquence, bon, de Rossellini ou d'un autre, ce qui est dans un texte, bon, de Flaubert et de Virginia Woolf. C'est ça, finalement, qui fait que, voilà, à un moment donné, il y a la condensation qui va se produire, qui fait que bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de traduire dans un langage qui soit en quelque sorte un langage, on peut dire, comme universalisant, ce qui se passe là, quoi. Et bon, pour moi, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas justement les matériaux d'un côté et puis la pensée qui ordonne les matériaux de l'autre, non. Il y a comme une espèce de sédimentation d'expérience, c'est à la fois une sédimentation, on peut dire, bon, historique, quoi, enfin, bon, textuelle, bon, ou d'image, ou bien historique, et puis une sédimentation de l'effet que ce matériau produit en vous, c'est-à-dire la façon dont il vous fait penser, quoi.
C'est-à-dire que
on pense pas comme ça à partir justement de concepts purs, on pense à partir de quelque chose, bon là on retombe sur Deleuze, qui vous force à penser, quoi.
Mais alors c'est ça la question, c'est très difficile de mettre le doigt sur cette chose qui nous fait penser ou qui vous fait penser, Jacques Rancière, puisque si on retrace le fil de votre travail, en tout cas des ouvrages dont nous avons parlé aujourd'hui, du Maître ignorant à La haine de la démocratie, au film que vous avez commenté de Rossellini notamment et de Bergman, et même la façon que vous avez de commenter la romance de Mozart que nous avons entendue, finalement à chaque fois vous revenez sur l'espèce de brouille, de flou qu'il y a autour de la notion de savant et de peuple. C'est le problème qui vous préoccupe depuis le début. C'est sans doute ce qui vous a fait vous intéresser à Marx. Et ça, d'où ça vient? Est-ce qu'on sait d'où ça vient?
Je sais pas si c'est ça qui m'a fait m'intéresser à Marx. Donc, vous savez, quand on est jeune, effectivement, peut-être il y a ça. Bon, il y a le fait que, bien sûr, vous avez toujours cette expérience un peu des frontières. Mais je pourrais dire, bien sûr, j'ai vécu à une porte de Paris. Il y avait encore un bout de zone. Il y avait la ville ouvrière d'un côté, la ville bourgeoise de l'autre. Mais bon, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vraiment ça qui m'a inspiré, ou est-ce que c'est aussi rétrospectif, quoi? Je peux dire, mais non, tout ça, c'est de la blague. En fait, bon, comme un jeune étudiant comme ça, bon, qui fait un peu le malin, voilà, je me suis lancé dans Marx, j'ai voulu faire de la théorie, et puis j'ai vu que la théorie, ça marchait pas, donc d'un coup, je me suis dit, mais peut-être que ce qui m'intéresse, effectivement, c'est la théorie là où elle devient, ou la pensée là où elle devient active, c'est effectivement la pensée là où on sépare, la séparation entre le savant et le non-savant, mais on sait pas, je dirais qu'il y a justement cette espèce de sédimentation qui fait que, vous avez lu Marx, vous avez fait entendu parler de la classe ouvrière, le mouvement ouvrier, la pensée ouvrière, la théorie marxiste-léniniste. Voilà, mais vous avez manipulé ça. Vous avez manipulé ça en même temps dans des textes, qui aussi parlaient un petit peu de choses dites concrètes. Bon, le premier, on peut dire, exercice philosophique auquel je me sois livré, c'est un commentaire du texte de Marx sur la loi sur le vol de bois mort. Voilà, donc voilà, on peut dire qu'il y avait du bois mort, il y avait de la campagne, il y avait aussi du concret d'une certaine façon. Mais comment tout ça s'arrange, peu importe. Toujours est-il qu'il y a un moment donné où les choses se resserrent, parce que j'étais parti après 68 pour travailler un petit peu sur l'histoire de la pensée ouvrière. Voilà, une espèce de grand truc, ça un peu mégalomaniaque. Et puis tout d'un coup, ce qui m'a touché, ce qui m'a intéressé, c'est la manière dont des gens qui sont pas destinés à penser se mettent à penser, quoi. Et ça, j'étais pas destiné à le trouver, quoi.
Ça vous a préoccupé toute votre vie.
Oui et non, c'est-à-dire que c'est petit à petit, c'est tout au long de la vie qu'on découvre ce qui vous préoccupe. C'est pour ça que je dirais que toucher, avoir le toucher juste en quelque sorte qui va commencer un livre, c'est aussi avancer un petit peu sur la question de savoir ce qui vous concerne. Effectivement, ce qui me concerne, c'est d'abord les lignes de partage. Alors il y a pas que la ligne de partage entre, disons, les savants et puis le peuple. Il y a plein de lignes de partage. Je parlais tout à l'heure de la ligne de partage, entre le silence et le bruit, la ligne de partage entre aussi la réalité et l'artifice, qu'on peut illustrer avec Bergman par exemple. Je crois que c'est effectivement ça qui m'intéresse, à savoir comment se construisent en quelque sorte les cadres qui font que c'est ça qu'on voit et pas ça, que certains sont destinés à voir ça et pas, et d'autres à voir autre chose. Et petit à petit, ça se construit très très lentement. C'est-à-dire que un chercheur, c'est quelqu'un qui cherche pour savoir ce qu'il cherche, quoi.
Et est-ce que le chercheur a un rôle politique selon vous? Est-ce que ce que vous écrivez est une manière de vous engager? Ou est-ce que le chercheur, puisque vous parlez de chercheur, non pas de philosophe, fait son travail, et puis si on l'entend, tant mieux, et si on l'entend pas, c'est pas grave?
Là encore, je dirais que il n'y a pas de règle générale, il y a des occurrences.
Non, mais pour vous, alors?
Oui, non, pour moi, il y a des occurrences. C'est-à-dire que je lis Marx. Marx, c'est bien, ça donne une explication cohérente du monde, on est content, donc on devient étudiant communiste. On se rend compte que cette explication cohérente du monde, finalement, elle se casse la figure lorsqu'il y a un mouvement réel. À ce moment-là, on devient maoïste, on milite comme maoïste, et puis il y a un moment où on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ce rapport entre ouvriers intellectuels, ouvriers théorie, ouvriers pensée, et on se met à travailler sur l'histoire ouvrière. Et puis en travaillant l'histoire ouvrière, on tombe sur quelque chose qu'on n'attendait pas, à savoir un ouvrier qui raconte son dimanche à la campagne, comment il va philosopher avec des copains sur les bords de la Marne. Et ça vous change aussi. Et puis on rencontre Jacques Otto, cette espèce de paradoxe incroyable. Je crois que c'est comme ça que les choses se font. Alors pour ce qui est de la pensée, alors pour ce qui est effectivement de l'action concrète, il y a des moments en quelque sorte où on peut dire qu'on est dans un monde où on est on est impliqué. J'étais à Vincennes en 68, à Vincennes en 68, de toute façon c'était la bagarre un peu tous les jours entre les gauchistes et le PC, donc c'était difficile de ne pas être, on peut dire, engagé, quoi. Et puis il y avait l'élan de 68.
Mais aujourd'hui, par exemple, très concrètement, avec le contexte actuel, vous avez écrit sur la démocratie, en plus un ouvrage qui s'appelle La haine de la démocratie. J'imagine qu'on va vous solliciter pour commenter ce qui se passe dans nos rues en ce moment, le phénomène des gilets jaunes, etc. Est-ce que pour vous, c'est votre rôle de répondre présent et d'essayer d'éclairer la situation présente ?
Je dirais que bon, il y a pour moi il y a comme une espèce de un peu de malentendu forcément quoi, parce que voilà, on vous dit ah bah vous avez travaillé sur les révoltes populaires, vous avez travaillé sur la démocratie, il y a ça qui se passe maintenant, hop, vous êtes le spécialiste, vous allez venir parler quoi. Mais venir parler, ça veut dire toujours quand même un peu donner la formule, dire pourquoi ces gens-là se révoltent et pourquoi c'est bien ou pas bien et sur quoi ça va déboucher. Et voilà, ça je dirais c'est le rôle un petit peu, je dirais, du spécialiste qui vient parler un peu à la radio, qui vient parler à la télé, parce que on pense qu'il faut éclairer les gens, qu'il faut décrypter, comme on dit.
Prendre de la hauteur.
C'est ça, oui. Enfin, là, vous allez décrypter, prendre de la hauteur. Or, bon, moi, je prends pas de hauteur. Je pense que ce qui se passe dans les rues de Paris, et pas seulement dans les rues de Paris, je m'en un peu sur toutes les routes, puisque chaque fois que je vais en Normandie, je les rencontre. Apparemment, je suis dans un coin où ils sont assez mobilisés, donc je rencontre toujours un petit barrage, comme ça, de gilets jaunes. Donc voilà, je pense que bien sûr tout ça a un rapport avec ce que j'essayais de dire, quoi, à savoir que la politique ça existe à partir du moment où justement où il se crée comme une espèce de transversale un peu justement bon inattendu quoi, entre une chose très très précise, bon ça peut être la question des examens en 1967 et 68, ça peut être la question du prix du carburant en 2018 quoi, quand donc une question précise tout d'un coup comme ça crée comme une espèce de transversale qui va traverser, on peut dire, toute la question au fond de la structure sociale, de l'inégalité sociale. C'est comme ça qui est remarquable dans la situation actuelle, c'est comment, bon, le prix du carburant, c'est pas un truc très excitant, hein. Et puis, tout d'un coup, il y a comme une espèce comme de déconstruction, en quelque sorte, de tout l'édifice social, de la manière de ce sur quoi il repose, qui est créé par là, quoi. Alors, bien sûr, ça, je peux dire que j'en ai toujours parlé, d'une certaine façon, de ce que c'était que la démocratie, à savoir créer, justement, cette espèce de prise de pouvoir inattendue, qui est pas simplement parce que c'est pas les gens qu'on attend, mais aussi parce que c'est pas le lieu où on les attend, c'est pas les formes sous lesquelles on l'attend. Alors, bien sûr, je peux dire qu'il y a un rapport entre ce que j'ai fait et ça, mais c'est pas intéressant que je joue les experts, que j'aille, disons, accaparer les micros pour dire, bah, vous voyez, bah, j'avais raison, c'est quand même bien quand ça me donne raison, ce truc-là, quoi.
Eh ben, on est bien content, en tout cas, que vous ayez accepté d'accaparer ce micro aujourd'hui, Jacques Rancière. Merci beaucoup à vous d'être venu sur les chemins de la philosophie. Et on se quitte avec Mozart, encore, on l'a entendu au cours de cette émission, une romance, cette fois-ci c'est Così fan tutte, une suggestion de votre part, Jacques Rancière, vous l'aimez ce Mozart?
Oui, ben c'est encore la question du rapport entre l'artifice et le naturel. Et bon, effectivement, je peux dire que c'est quelque chose comme exemplaire là, dans cette histoire où finalement il y a un manipulateur, des femmes manipulées, et d'une certaine façon c'est pas important quoi, ce qui est important c'est l'émotion du chant.
Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver, comme tous les jours, Anastasia Colosimo pour son journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Anastasia.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre paru le mois dernier aux éditions Le Bord de l'eau. Il s'agit de la correspondance entre le philosophe, compositeur et musicologue Théodore Adorno et l'écrivain et théoricien du cinéma Siegfried Krakauer, correspondance qui s'étend de 1923 à 1966. Pour nous en parler, nous avons joint l'éditeur de l'ouvrage, Patrick Vassor. Bonjour Patrick Vassor.
Bonjour.
Alors racontez-nous tout d'abord, qu'est-ce qui lie Théodore Adorno et Siegfried Krakauer?
Il y a énormément de choses qui lient ces deux intellectuels. Tout d'abord, il y a une histoire amoureuse qui est importante, je crois, dans leur correspondance et dans leur développement intellectuel. Siegfried Krakauer est un peu plus âgé qu'Adorno, il a 14 ans de plus, et c'est lui qui va initier Théodore Adorno à la philosophie.
Et on sait comment ils se rencontrent?
Alors ils se rencontrent par des liens familiaux. Ils vont se rencontrer tout simplement parce que la tante de Théodore Adorno connaît la famille de Siegfried Krakauer. Et donc ils vont se rencontrer et ils vont prendre l'habitude de se voir pour parler philosophie. Et Krakauer va initier Théodore Adorno à Kant. Il va lui faire semaine après semaine des cours sur Kant. Et le jeune Adorno va se montrer plutôt intéressé et brillant. Et donc, ils vont débuter une relation qui est une relation intellectuelle, qui est une relation affective, amicale et sans doute aussi amoureuse, platonique, sans doute également, mais assez enflammée parfois. Et donc, c'est cette histoire-là qui s'inscrit dans la première partie, notamment, de cette correspondance. Ce sont ces échanges intellectuels et évidemment, ces désirs de rencontre et de présence amoureuse.
Et en même temps, cette correspondance, elle couvre une période passionnante qui va de l'entre-deux-guerres jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on apprend sur cette époque en lisant cette correspondance?
Eh bien, on apprend beaucoup de choses. Il faut savoir que l'un comme l'autre ont été en relation avec les intellectuels les plus grands de l'Allemagne weimarienne et puis ensuite de l'Allemagne, de l'occupation nazie. On y croise des personnes comme Bertolt Brecht, on y croise des personnes comme Benjamin, comme Bloch, comme Lukács, évidemment les personnes qui vont fréquenter l'Institut de recherche sociale comme Horkheimer, Löwenthal, etc. Et puis des compositeurs comme Berg. Donc en fait, c'est toute la vie intellectuelle qui est narré dans cette correspondance avec les philosophes Anders, Hannah Arendt, etc. Alors ce que l'on y apprend, c'est d'une certaine manière la force de leur théorie réciproque, parce que évidemment il y a des points communs entre Adorno et Krakauer et avec les autres, hein, comme Walter Benjamin ou Max Horkheimer, mais on y apprend également leur extrême vulnérabilité. C'est-à-dire que pour travailler, et principalement Krakauer, il se trouve toujours sur le fil, parce qu'il est sans doute moins bien installé qu'Adorno, malgré qu'il soit plus âgé, parce qu'il a pris peut-être plus de risques politiques, notamment avec ses petits articles dans le journal de Francfort. Et puis, il va quitter l'Allemagne un peu précipitamment, c'est-à-dire le lendemain de l'incendie du Reichstag. Et il va dire d'ailleurs dès le mois d'avril une phrase qui aujourd'hui prend tout son sens. Nos enfants sauront dans les livres d'histoire quelle était la signification de cet incendie. C'est un peu ça leur histoire. Ils sont juifs, allemands, philosophes de gauche, et donc cette vulnérabilité les poursuit. C'est l'histoire d'une fuite qui, pour ce qui concerne Krakauer, et j'allais dire d'une reconstruction pour ce qui concerne Adorno. Fuite pour Krakauer parce qu'il va immigrer en France, qu'il va vivre dans des hôtels, qu'il va vivre de deux fois rien, qu'il va se retrouver dans des camps, tout comme Benjamin, avant de pouvoir en sortir et essayer de fuir la France au début de 1940 à Marseille, comme pour Benjamin. La seule différence, c'est que Krakauer aura la chance de pouvoir quitter l'Europe et d'aller aux États-Unis, contrairement à Benjamin. Et Krakauer va, lui, rester aux États-Unis, mais s'installer dans une forme de précarité, vivant à l'hôtel, travaillant de manière plutôt solitaire, alors qu'Adorno, lui, va, pendant la guerre, aller aux États-Unis avec une certaine reconnaissance des travaux, et puis retourner après la guerre en Allemagne. Et leur correspondance va continuer tout au long de cette période, c'est-à-dire de 1923 jusqu'à 1966.
Merci beaucoup, Patrick Vassor. Je rappelle que la correspondance de Théodore Adorno et de Siegfried Krakauer vient de paraître aux éditions Le Bord de l'eau.
Merci beaucoup, Anastasia. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Sharon Houry qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Anaïs Isbert, Isis Jourda, Marie Simon, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Bruno Gagnère-Fontani qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série des chemins de la philosophie sur la psychiatrie, de l'histoire de la folie, par le philosophe Michel Foucault, jusqu'à la crise actuelle, crise ou non, on verra ça, de la psychiatrie. Antonin Artaud, pour en finir avec l'enfermement, et enfin Heidegger, psychiatre malgré lui, on parlera notamment des applications de la phénoménologie à la psychiatrie contemporaine, c'est absolument passionnant. On se retrouve donc lundi prochain pour le début de cette série. D'ici là, vous avez tout le week-end, toute la semaine et toute la vie pour réécouter les émissions des chemins de la philosophie de votre choix. Elles sont toutes réécoutables et podcastables, même si le terme est moche, en ligne sur le site des chemins de la philosophie. Vous pouvez télécharger ces émissions et les écouter à volonté et les garder aussi longtemps que vous le désirez. On se retrouve lundi à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.